Bien, ce soir, nous abordons le point 9 dans nos notes. On va parler encore de prophétie, parce que nous sommes en train de voir cette section sur le fait, les raisons de pourquoi croire en la Bible, hein, du fait que, voilà, dans la Bible, nous trouvons des prophéties, et des prophéties qui se sont réalisées de manière extraordinaire, certaines avec beaucoup de précision. Et on va donc ce soir regarder, eh bien, à la prophétie de Jésus-Christ sur sa mort et sa résurrection. Alors si les musulmans ne voient en Jésus-Christ qu'un prophète, nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas négliger le fait que oui, Jésus-Christ est prophète, mais il n'est pas que prophète. Mais on va regarder donc ces prophéties que Jésus a fait concernant sa mort et sa résurrection. On a vu, il y a plusieurs leçons de cela, que l'existence même de Jésus-Christ est quelque chose qui ne peut vraiment pas être contesté. Je crois que les preuves qui sont historiques, archéologiques, etc., nous amènent vraiment à croire et avoir cette conviction, hein, que Jésus-Christ a réellement existé. Mais le point qui est vraiment le plus contesté concernant Jésus-Christ, il y a sa mort, certains contestent le fait qu'il soit mort, certains contestent la manière dont il est mort, mais beaucoup contestent le fait qu'il soit ressuscité, n'est-ce pas? Mais tout comme on a vu, hein, la dernière fois dans le fait que Jésus-Christ a réellement existé, qu'il y a des preuves, certes, internes à la Bible qui nous déclarent cela, mais il y a aussi des preuves, historiques, des documents qui parlent de ce que eh bien, Jésus-Christ a existé et que, eh bien, ses disciples ont affirmé qu'il a été ressuscité des morts. N'oublions pas, par exemple, Tacite, hein, qui était un Romain du 1er siècle, hein, qui était un historien assez connu et considéré. Et il avait dit justement que le nom de chrétien leur vient du nom de Christ qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Donc là, ce que l'on a, c'est pas quelqu'un qui dit « Moi aussi, je crois que Jésus-Christ a existé et qu'il est mort, il est ressuscité », mais il déclare que Jésus a existé parce qu'il a été condamné par le procureur Ponce Pilate pendant le règne de Tibère. On a également, hein, les écrits de Flavius Josèphe qui nous parlent de ce que Jésus a existé, Pline le Jeune également, qui a vécu entre 60, 62 jusqu'à 113 après Jésus-Christ, qui donnait un certain détail sur la pratique du culte des premiers chrétiens et le fait que bon, ils adoraient Jésus comme étant Dieu. Hein, et il note ça donc dans ses écrits. Et d'autres encore hein, qui ont laissé ces traces écrites historiques que Jésus a bel et bien existé et que il a eu des disciples et que ses disciples ont dès le début enseigné qu'il était mort et ressuscité et qu'ils le considéraient comme étant Dieu, le Fils de Dieu. Mais la Bible nous enseigne au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ beaucoup de choses, n'est-ce pas? Elle nous enseigne que la mort de Jésus était quelque chose qui était nécessaire et on verra un peu plus ces choses en profondeur plus tard, mais la mort de Christ était nécessaire parce que justement, cette mort constituait ce sacrifice parfait dont l'humanité avait besoin, ce sacrifice qui acquittait hein, la dette du péché pour tous ceux qui croient en lui. C'est ce que nous rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 28, en parlant de Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes hein, et qui apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et on aurait pu rajouter encore d'autres passages, mais ce n'est pas le point focal pour l'instant de notre étude. Sa mort, donc, était vraiment le but ultime de son ministère. C'était de pouvoir apporter ce salut, un salut offert une fois, un sacrifice offert une fois. Parce que quand vous étudiez l'Épître aux Hébreux, vous verrez que, voilà, Christ étant parfait, son sacrifice est parfait. Hein, on a besoin d'être sauvé qu'une seule fois. Et il n'y a que Christ qui a pu accomplir cela. Mais Jésus, les Écritures nous montrent que Jésus connaissait parfaitement l'objectif de sa venue sur terre. Jean chapitre 10, par exemple, au verset 10, nous lisons, c'est Christ qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour pour ses brebis. Donc, l'objectif, que les brebis aient la vie en abondance, hein, et ici il est question donc de la vie éternelle, et que Jésus est celui qui a donné sa vie pour que cet objectif puisse être atteint, pour que, eh bien, tout pécheur qui se repent, qui place sa foi en Jésus-Christ, et obtienne cette vie abondante, cette vie éternelle. Plus loin dans ce même chapitre, les versets 17 à 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, ce que certains ont considéré en regardant à Jésus comme juste un personnage historique qui malheureusement a été tué par les Romains et les Juifs, non. La Bible, elle, nous enseigne que Jésus savait exactement pour quelle raison il était venu sur terre et il a proclamé, prophétisé sur sa mort et sa résurrection, mais il a bel et bien expliqué que sa venue était pour que les pécheurs puissent avoir le moyen d'être sauvés définitivement de la condamnation éternelle du péché. Et donc, au cours de son ministère, Jésus-Christ a directement prédit sa mort au moins trois fois dans les évangiles synoptiques. Hein, synoptique, c'est Matthieu, Marc, Luc, et on les appelle comme ça parce que on va retrouver, on va dire, les mêmes événements décrits un peu de la même manière, parfois avec des mots différents. Mais synoptique, ça veut dire qu'ils ont la même perspective un peu sur les choses, un peu sous des angles différents, mais la même perspective. L'évangile de Jean, il est différent par rapport aux trois. Hein, et c'est pour ça qu'on fait un peu cette différence par rapport aux évangiles. Mais la première fois que Jésus, en fait, prédit sa mort, on retrouve cela dans trois passages, dans Matthieu chapitre 16, dans Marc chapitre 8 et dans Luc chapitre 9. Et cette première prophétie de Jésus-Christ concernant sa propre mort, et sa résurrection, eh bien, c'était juste après, pas longtemps après, en fait, ce miracle de la multiplication des pains pour les 4000 personnes. Il vient de nourrir la foule, et nous le voyons donc proclamer dans ces trois différents passages que sa venue sur terre avait un objectif. Matthieu 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. D'ailleurs, là-dessus, hein, Pierre le prend à part et se met à le reprendre. Et il dit: « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Que fait Jésus? Jésus, lui, il reprend Pierre, parce que l'objectif de sa venue, c'était vraiment de mourir, de donner sa vie, hein, et de ressusciter. Et Jésus se retourne vers Pierre et lui dit: « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parce que, comme on l'a vu en lisant les évangiles, les disciples espéraient voir Jésus un jour devenir roi, hein, et régner et apporter sa paix à Israël. Et c'était cet objectif, on va dire, plutôt terre à terre qu'ils avaient. Et donc le fait que pour eux, Jésus leur dise: je vais mourir, ils ont complètement zappé la partie je vais ressusciter, mais pour eux, ah non, 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 surtout pas, on veut pas ça. Et le Seigneur reprend Pierre par rapport à cela. Marc chapitre 8, les versets 31-32, on retrouve quasiment, hein, les mots pour mots, hein, ce que Matthieu dit. Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et comme on vient de le lire dans Matthieu, hein, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Luc également, hein, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc là, vous avez pu constater que la raison pour laquelle on appelle ces évangiles synoptiques, okay, on retrouve les mêmes événements décrits souvent, quasiment de la même manière, mais avec des mots différents. La seconde prophétie que fait Jésus-Christ par rapport à sa mort et sa résurrection fait suite à la transfiguration. Vous vous rappelez de cet événement? où le Seigneur Jésus prend avec lui ses trois de ses disciples, n'est-ce pas, pour aller sur cette montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et pendant qu'ils sont là, il y a cet événement extraordinaire où ses disciples ont pu voir Christ dans sa gloire céleste, c'est-à-dire de le voir d'une manière qui était cachée aux autres. Et peut-être, oui, hein, ces disciples-là ont dû être bien confus lorsque, un peu plus loin, Jésus leur déclare qu'il allait mourir. Matthieu 17, versets 22 à 23, hein, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés, hein, les disciples. Marc chapitre 9, versets 30 et 32, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais ses disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient d'interroger Christ à ce sujet-là. Luc également, au chapitre 9, versets 43 et 45, nous dit, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration. Hein, c'est là où on est, juste après la transfiguration. Donc, de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et les disciples ne comprenaient pas cette parole. Pourquoi? Parce qu'elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient même de l'interroger à ce sujet. Donc, face à ces déclarations et ces prophéties de Jésus-Christ concernant sa mort et sa résurrection, on comprend bien plusieurs choses. Il a prophétisé sur le fait qu'il allait mourir, sur le fait qu'il allait ressusciter. On a pu constater que les disciples, leurs réactions par rapport à cela ont été des réactions très humaines. Non, on ne veut pas ça. Mais attendez, c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Et vous aurez noté, hein, chaque fois, il fallait que, il fallait que, il faut que. Et ensuite, nous voyons aussi que cette incompréhension, finalement, elle s'efface à travers les événements historiques, parce que ces disciples qui ne comprenaient pas à ce moment-là, on les voit plus tard, bon, après la résurrection de Jésus-Christ, dire, ah, ben là, il était en train de parler de ça. On ne comprenait pas à ce moment-là, mais finalement, maintenant, on a compris. Et la troisième prophétie, elle est faite, donc, alors que le Seigneur Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem pour célébrer la Pâque, mais pas que. Hein, ici, on voit le Seigneur Jésus encore une fois prédire sa mort. Il parle à ses disciples et il leur dit encore une fois comment il allait être moqué, flagellé, crucifié, qu'il allait ressusciter. Et encore une fois, là, les disciples, il y a cette incompréhension dont je viens de parler. Matthieu chapitre 20, les versets 17 à 19, nous lisons, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Marc, chapitre 10, versets 32 à 34, pareil, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Luc également, au chapitre 18, versets 31-34, on lit les mêmes choses. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir, le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne compraient rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Pour ceux, hein, qui sont parents et qui, à un moment donné, peut-être ont dû laisser leurs enfants sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Hein, beaucoup de parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent leurs enfants à l'avance pour pas que ce soit un choc terrible. Hein, pour ceux qui ont fait les rentrées scolaires, vous savez de quel genre de choc terrible ça peut être pour les enfants quand on les laisse entre les mains de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Hein, ça peut crier, brailler, etc. Ça fait certains qui courent et qui s'enfuient. Mais j'aime voir ici le fait que le Seigneur Jésus les a préparés. En tout cas, je ne vais pas dire qu'il a essayé, mais il a tout fait pour préparer ses disciples à ce qui allait venir. Parce que ces trois prophéties sont faites à des intervalles différents. Hein, c'est-à-dire que, bon, là, les passages qu'on vient juste de lire, on est à la dernière Pâque, on est à la fin du ministère de Christ, mais les autres, c'était à des années différentes du ministère de Christ. Et donc, ils ont eu l'occasion, quasiment dès le départ, de savoir quel était l'objectif de Jésus-Christ, quel était l'objectif du Messie. Et ils les avaient préparés à cela. Et là, on est vraiment dans les quelques jours avant sa mort et sa résurrection. Et j'aime le fait qu'il les prend à part. Il les prend à part pour encore une fois les préparer à cela. Mais notons que non seulement Christ a prophétisé sur sa mort et sa résurrection, il a également indiqué les détails suivants. Il a dit que c'était une nécessité pour lui de mourir. Et on verra aussi, Dieu voulant, un peu plus tard, cette nécessité. Il a également partagé que cet événement-là, hein, la mort et aussi la résurrection, c'était l'accomplissement des prophéties messianiques. C'était afin que les prophéties s'accomplissent. Il leur a donné aussi comme information qu'il allait être livré, aux chefs religieux, hein, les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes, etc., mais également aux Romains, hein, les païens. Il va être livré aux païens. Donc il a donné quand même des détails assez importants sur les événements qui allaient se produire autour, pendant et après donc sa mort et sa résurrection. Il leur a fait part qu'il serait maltraité, qu'il allait être crucifié, même à Jérusalem. Et là, on a vraiment, dans l'un des passages, il est question que c'est de la crucifixion. Hein. Tous les autres parlent, il doit mourir, il doit mourir, il doit mourir. Et l'un d'entre eux, hein, qu'on a lu, j'aurais dû noter la référence et même le souligner. Matthieu 20, c'était ça. Hein. Matthieu 20, voilà. Hein, ils le livreront, verset 19, aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Donc, il a aussi donné la manière dont il allait être mis à mort. Et on pourrait même. Moi, j'ai pensé à ce passage-là en relisant tous ces passages qui prophétisent, hein, où Jésus prophétise sa mort et sa résurrection, de repenser aux autres paroles de Christ concernant Jérusalem, hein, que l'on voit dans Matthieu 23, verset 37, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, hein, combien il aurait aimé les regrouper. Mais ça aussi, il a donné cette précision que ce serait à Jérusalem qu'il allait mourir. On doit noter également que dans ces passages des synoptiques, ils ne disent pas tous exactement les mêmes mots. Hein. On voit beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances. Donc c'est pas, ils n'ont pas un copié sur l'autre pour recopier, etc. Il y a des similitudes, il y a des mots qui sont les mêmes, mais ils ne notent pas tous les mêmes détails. Par contre, voilà, ils se complètent. Hein, on a la même vue, mais avec des angles différents, et donc des détails, des témoignages qui viennent de personnes différentes, qui ont observé, qui ont entendu hein, ces paroles, qui ont participé à ces événements marquants. Mais voilà, tout concorde comme cela s'est passé. Et ouais, bah, le temps est déjà passé vite. Mais donc la prochaine fois, ce qu'on regardera, c'est que il y a encore d'autres prophéties hein, que Jésus a fait concernant sa mort à sa résurrection, mais cela était, on va dire, plus subtil que les déclarations qu'on vient de lire. Là, les déclarations qu'on vient de dire, on ne peut pas faire plus clair que ça. Hein. Je vais à Jérusalem, je vais être livré entre les mains des chefs religieux qui, eux, vont me livrer aux païens et ils vont se moquer de moi, ils vont me torturer, ils vont me crucifier. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Si on synthétise tous ces passages, ça c'est la prophétie que Jésus a faite concernant sa mort et sa résurrection. Mais il y a d'autres passages où Jésus, on va dire, exprime de manière, on va dire, plus implicite, peut-être un peu plus cachée, le fait que, voilà, il était venu pour, comme il a dit en tant que bon berger, donner sa vie pour ses brebis. Est-ce que nous avons des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir?